Cheers and pummels! Down, down, double down!
Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Grain de Sable sur Radio Canu 102.2. Aujourd'hui, nous recevons Roland Nourrier pour nous parler, entre autres, de son film, donc Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, Le Grain de Sable est vraiment ravi d'accueillir Roland. On va d'abord te faire une petite présentation de ton parcours. De tes actes militants, parce que ce film n'est pas comme ça de rien, hein, c'est qu'il y a tout un parcours de réflexion d'un militant engagé dans un certain nombre d'associations, engagé aussi sur un territoire, il me semble.
Hein.
Et je trouve que c'est vraiment intéressant pour nos auditeurs de comprendre comment on peut arriver à faire un film documentaire sur la Palestine aujourd'hui, après des années comme ça de réflexion, et comment d'ailleurs on arrive à le faire, à le financer et à le diffuser, à le distribuer, parce que là c'est une partie qui reste encore difficile. Alors Roland, fais-nous une petite présentation. Qu'est-ce qui t'anime ?
Alors donc moi on va dire déjà que je suis un jeune retraité de l'industrie. Après aussi avoir une petite entreprise d'économie sociale et solidaire que j'ai vendue donc il n'y a pas très très longtemps. L'idée et la genèse du film, d'abord il faut savoir que je suis un passionné de cinéma et de géopolitique. Alors c'est vrai que je milite à Attaque dans les monts du Lyonnais à Tarare-Larbrelle déjà depuis plus de 15 ans, mais ça c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de problématiques en termes de géopolitique. Et puis je suis un passionné de cinéma, donc je disais, et je fais partie d'une association de cinéma qui s'appelle le CLAP à Tarare, où on défend du cinéma d'auteur, hein, donc des petits films entre guillemets qui méritent d'être vus, et voilà. Et j'avais très envie de réaliser un film, ça date déjà de plusieurs années. Et en fait, ça s'est presque imposé à moi naturellement de faire mon premier film sur l'histoire de la Palestine, parce que j'y suis allé une première fois en 2014, même si ça fait très longtemps que je m'intéresse à cet endroit du monde. On ne revient pas dans un état normal quand on a parcouru les territoires occupés. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre à Gaza. Mais en tout cas, lorsqu'on est un être humain normalement constitué, quand on est confronté au quotidien des Palestiniens, puisque j'y ai passé une première fois une douzaine de jours, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et j'ai un ami qui me dit d'ailleurs, et je trouve que c'est très juste, la première fois quand on se rend en Palestine, quand on revient, on est en souffrance. Et je trouve que c'est le terme juste, on est vraiment en souffrance. Donc, les Palestiniens disent, mais bon, tu vas rentrer en France, mais raconte ce que tu as vu, tout simplement. Déjà, pour nous, c'est important que des gens témoignent, parce qu'il y a quand même beaucoup de désinformation autour de ce qui se passe dans les territoires occupés, notamment, et à Gaza, bien sûr, aussi. C'est tout naturellement que, finalement, j'ai construit la narration d'un film. Après, il y a eu d'autres circonstances qui font que j'ai été aussi un peu aidé et poussé par la rencontre d'une réalisatrice palestinienne qui s'appelle Maï Masri, qui était venue à Lyon et que moi j'ai aussi accueilli à Tarare, au cinéma où je suis, avec l'association Le Clap, présenté son dernier film là en 2017, qui s'appelle 3000 nuits, qu'on avait aussi accueillie au Festival Érap, puisque je fais
partie
du Festival Érap.
Donc tu es militant d'Attaque hein, depuis de longues années. Il me semble que tu es sur Couleur Palestine aussi, je ne savais plus trop.
Oui, aussi. Hein.
Je rappelle qu'Attaque Rhône fait partie du collectif 69 pour la Palestine et que notre émission Grain de Sable invite et parle régulièrement, de la Palestine. Hein. Nous avons invité la FPS, parce qu'il y avait des personnes qui revenaient de Palestine, et donc c'était important d'avoir des témoignages. Tout dernièrement, on a invité l'UJFP pour nous parler de l'engagement de cette structure, bien sûr pour la Palestine, hein, mais aussi pour nous parler de leur engagement sur les migrants.
Oui.
Juste, je fais un petit peu, c'est pas le censeur, mais le décodeur, donc l'UJFP.
Alors l'AFPS, puisque j'ai d'abord parlé de l'AFPS, effectivement c'est l'association France-Palestine Solidarité, et l'UJFP, c'est l'Union Juive Française pour la Paix, qui est née, comme vous avez expliqué, je suis en train de chercher son prénom, bon ça me reviendra, notre invité, effectivement est née quand même du refus d'utiliser la culture juive ou le fait d'être juif accompagner et valoriser ou être d'accord avec la colonisation et l'expansion d'Israël.
Et être un soutien inconditionnel de l'Israël, d'Israël.
Voilà, tout à fait. Donc le JFP, l'Union Juive Française pour la Paix, est né de cela, justement par rapport à d'autres structures comme le CRIF, par exemple, qui est effectivement un inconditionnel de la politique israélienne. Et puis, nous allons accueillir bientôt, le mois prochain, les Femmes en Noir, qui est un autre mouvement issu de la rencontre entre des Israéliennes et des Palestiniennes, justement qui militent aussi pour la paix et l'arrêt de la colonisation. Donc, Attaque Rhône, Couleur Palestine. Donc, tout naturellement, tu as rejoint le collectif 69 pour la Palestine.
Oui, tout à fait. Ouais. Hein? Je participe aux réunions mensuelles, même si je ne suis pas un militant hyper actif, parce que, justement, si je peux embrayer sur le film, l'idée de faire ce film, c'était vraiment, et là j'insiste, de ne pas faire un film militant. Parce qu'en fait, le contenu du film, les militants, à 90%, ils le connaissent. L'idée, la genèse du film, c'était vraiment... En fait, j'ai essayé de faire un film très humblement et modestement, comme j'aurais aimé qu'on me raconte la Palestine. C'est-à-dire l'histoire, et ça me semble primordial de comprendre l'histoire. La Palestine, ça existait avant Israël, hein, et pour comprendre jusqu'où on en est arrivé aujourd'hui. Et à mon avis, si on veut expliquer la Palestine et ce que les médias appellent le conflit, moi j'aime pas ce terme, mais en tout cas l'occupation, hein, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, on est obligé de se plonger dans l'histoire, parce que après on mélange tout, sionisme, judaïsme, tout ça, enfin je veux dire, ça a rien à voir, c'est des choses différentes.
Il faut replacer des termes dans le contexte et dans leur réalité, ou dans leur définition, parce qu'effectivement, sinon, ça donne lieu à plein de mauvaises interprétations, et puis ça devient même dangereux. Hein, si quand on confond aujourd'hui antisionisme et antisémitisme, c'est dangereux. C'est dangereux d'ailleurs pour ceux qui combattent vraiment l'antisémitisme, et ce n'est pas du tout comparable.
Hein. Tout à fait.
On va revenir hein, sur ton film. Je voudrais juste qu'on finisse un peu la présentation de tes activités militantes. Donc, tu participes à ERAP. C'est peut-être aussi pour ça que ce film aussi est né. ERAP, c'est une autre association, mais plus axée sur les échanges culturels. Hein. ERAP, c'est échange.
Rhône-Alpes Auvergne-Palestine.
Voilà. Et c'est une association qui aujourd'hui est assez reconnue et connue du fait de l'édition chaque année, depuis maintenant, je crois que c'est
5 ans,
d'un festival du film palestinien qui a lieu au printemps.
C'est ça. Qui a lieu au mois d'avril cette année. C'est la 5e édition. Effectivement, moi je fais partie du CA qui organise ce festival. Comme moi qui suis passionné de cinéma, donc c'est assez facile entre guillemets, mais tout naturel, on va dire. Et ouais, c'est un festival qui prend de l'ampleur, hein, puisque la dernière édition, l'année dernière, on a approché les 4000 spectateurs total, mais répartis sur toute la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. qui a même débordé sur Mâcon, je crois. Donc ça va de Clermont-Ferrand à Annemasse, de Drôme-Ardèche jusqu'au nord de la région, quoi. C'est vraiment un festival qui prend de l'ampleur, et l'idée, c'est vraiment de faire connaître la culture palestinienne. Alors nous, au IRAP, au travers du cinéma, bien sûr, et parce que, voilà... les Palestiniens, c'est pas que des jeunes qui jettent des cailloux sur les soldats qui occupent leur terre. Ils ont une vraie culture, je vais pas dire millénaire, mais en tout cas très très ancienne. Et ils ont besoin aussi qu'on la fasse connaître et qu'on la développe à l'extérieur, quoi. Ils ont tellement de difficultés pour ça que nous, on est là aussi pour aider à faire connaître cette culture.
Donc on va parler de ton film maintenant, puisque je sens que tu as envie d'en parler. Et tu es là pour ça, hein, d'ailleurs, Roland. Mais alors... Tu décides, enfin, dans ta tête, tu dis, ça y est, je vais faire un film documentaire, comme j'aurais souhaité, comme pour en fait présenter, raconter l'histoire de la Palestine, pour des personnes qui ne connaissent pas forcément les difficultés rencontrées par les Palestiniens, l'historique aussi des problèmes entre les deux, enfin, j'allais dire entre les deux pays, ben non, il y a un État d'un côté, il n'y a pas d'État de l'autre, mais voilà. Mais, donc, tu es retraité.
Oui, oui, donc, je suis un jeune retraité.
Donc, tu disposes de temps.
Voilà.
Comment tu t'organises? Comment tu fais pour te dire, eh ben voilà, comment on s'organise pour construire un film documentaire, pour le concevoir, pour le financer, parce que tu vas nous parler de son financement. Voilà. Mais comment, au début, tu t'es organisé? Comment tu as fait, concrètement?
Alors, déjà, lors de mon premier voyage en 2014, les gens avec qui j'étais, on avait notamment un guide, pas tout le temps, mais qui était parfois avec nous, qui a un féru d'histoire, et tout ce que j'ai appris sur l'histoire de la Palestine, de cette province de l'Empire ottoman, avant la création de l'État d'Israël, c'est tellement riche et dense que j'ai mis un moment avant de le digérer, quoi. Quand je suis revenu, j'ai fait des petits rapports, des petites notes pour essayer, j'ai lu plein évidemment de bouquins en complément pour bien appréhender et assimiler cette histoire de la terre de Palestine, hein, qui est un croisement de cultures incroyable et millénaire, hein. Donc pour ça, pour moi, ça c'est intellectuellement très très intéressant. Et puis effectivement, peu de temps après est née l'idée de, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Moi, je n'ai pas des talents d'écrivain, en tout cas, je ne sais même pas si j'ai un talent de cinéaste d'ailleurs, mais en tout cas, écrire un livre ne me sentait pas, à part faire mes petites notes comme ça, faire un diaporama, faire voir aux copains ce que j'avais vu, mais ce n'est pas bien suffisant, quoi. Moi, je voulais essayer de toucher le plus grand nombre, quoi. Et donc, j'ai eu très vite envie d'y repartir. Donc, j'y suis retourné en 2017, mais sauf que quelques temps avant, j'y suis allé en mars-avril 2017, et en début d'année 2017, j'ai fait une fabuleuse rencontre avec une réalisatrice que j'adore, qui s'appelle Maï Masri, et je lui ai parlé de mes voyages en Palestine, que j'allais y retourner, que j'aimerais bien faire quelque chose, et elle m'a dit, mais allez, vas-y, lance-toi, les Palestiniens n'attendent que ça. Écris une narration qui tienne la route, raconte ce que tu as envie de raconter, et pars avec une caméra, surtout pars avec une caméra. Alors moi, je dis oui, ok, mais je suis un autodidacte, hein, ok, je ne suis pas formé pour ça. Mais bon, elle m'a dit, c'est pas grave, avec le numérique, maintenant, on sait faire des choses incroyables. Et puis, entoure-toi d'une équipe, parce que moi, je lui dis, oui, mais je voudrais entendre des gens là-dessus. Donc, j'ai constitué une équipe de techniciens, d'intermittents du spectacle, de professionnels.
Juste, tu avais jamais filmé ou même fait des formes très courtes?
Non, non. Je suis
donc
un autodidacte complet. Et donc, mais c'est vrai que le numérique facilite vraiment les choses. Bon, j'ai
t'avais une culture cinématographique.
Oui, alors voilà.
Cinématographique, déjà.
Bon, j'ai une culture cinématographique, voilà. Je connais les codes, je sais ce qu'il faut à peu près faire et pas faire, comment on cadre tout ça, voilà.
Donc c'est déjà pas rien.
Oui, mais bon... Ouais, c'était le minimum pour pouvoir partir avec une caméra et puis pas filmer n'importe quoi. Et puis surtout, le fait de constituer une équipe de, entre guillemets, professionnels, là, pour faire mes interviews en France, en Suisse, voilà, c'était... Là, par contre, j'étais royal pour travailler, parce que j'avais même un preneur de son, un ingénieur du son, qui réglait ça aux petits oignons. Des fois, deux cadreurs ou cadreuses, tiens, on faisait un plan serré, un plan large, ce qui fait qu'après, au niveau du montage, c'était royal pour travailler, quoi. Après, les images que j'ai moi tournées en Palestine ou les interviews que j'ai faites, je les ai faites vraiment avec ma petite caméra, des fois même un peu à l'arrache, parce que vous imaginez bien qu'en Palestine, on ne peut pas poser son trépied au milieu de Jérusalem pour faire des plans, hein, ça ne se passe pas comme ça. Bon, mais par contre, j'avais pris des rendez-vous avec un intellectuel juif qui défend les droits des Palestiniens à Jérusalem, donc ça s'est fait dans une pièce où j'ai pu poser ma caméra, c'était confortable, mais voilà, la partie Palestine ou les images d'incrustation, il y en a des miennes, mais pas que. Il y a surtout beaucoup d'images que des vidéastes pour lesquelles ils m'ont donné les droits pour compléter. C'est en Palestine, c'est pas facile de filmer des extérieurs, quoi, où on le fait un petit peu à la sauvette, parce que il y a une telle pression de l'armée israélienne de partout, quoi, que c'est un petit peu compliqué.
Déjà arrivé avec une caméra à Tel Aviv, t'as pas eu de problème, on t'a pas posé des questions.
Non, enfin, franchement, c'est une petite caméra qui passe, oui, très facilement. D'accord. Faut pas non plus être parano. Là où mon angoisse était plus importante, c'est au retour, parce que j'avais mes films, mes prises de d'images sur des petites cartes SD là, donc j'en avais mis un peu de partout dans mes bagages, et là je me suis dit, s'il me fouille et qu'il regarde ce qu'il y a dessus, voilà. Mais bon,
ah bah écoute, moi je suis allée en Palestine en 2011, et quand je suis partie au retour, donc moi mon sac n'a pas été fouillé, mais il a été passé au scanner. On m'a quand même demandé quel était le contenu du CD qu'il y avait dans mes bagages, quoi. Ils n'ont pas regardé, mais c'est vrai, c'est un CD que j'ai acheté dans une librairie, voilà, à Jérusalem. J'ai pas vraiment menti, hein, mais je sentais qu'il ne fallait pas que... Donc, en fait, j'avais plusieurs CD. Il y en avait un où il y avait quand même une interview d'un personnage. Donc, heureusement qu'ils n'ont pas été pouvoir plus loin. Donc, effectivement, il y a quand même... Je pense que ce n'est pas si évident que ça. Alors, ce n'est peut-être pas forcément à l'aller quand tu arrives, que tu peux être ennuyé. Je vais rester sur un terme très, voilà, très léger comme ça. Mais c'est vrai qu'après, au départ... On aurait pu imaginer qu'on t'enlève tes enregistrements.
Oui, ça, bon, je reconnais que j'ai la veille de partir et le jour du départ, j'avais une petite angoisse quand même. Je voulais pas trop mouiller les gens qui étaient avec moi pour dire je vais en mettre un petit peu de partout, parce que je voulais pas non plus les qu'ils soient embêtés pour ça. Mais moi, je me suis dit, merde, mais si... mince, s'ils me fouillent... voilà, donc... mais bon, des fois, on devient un peu parano, hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Après, tout n'est pas si parfait que ça, même dans la sécurité de Tel Aviv. Oui, ouais. Effectivement, il faut relativiser, mais quand même, hein, voilà. Donc, en fait, tu es parti sur l'idée de faire un documentaire avec une base d'interviews, voilà, de différentes personnalités.
C'est ça.
Israéliennes, palestiniennes. Et puis peut-être d'autres personnes, tu vas nous en parler aussi, qui sont des personnalités dans la vie politique, économique, internationale.
Je ne me sentais pas du tout de faire une fiction, d'abord. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un documentaire. Mais vraiment, tout de suite, j'ai eu l'idée que la première partie du film parle de l'histoire. Remonte au siècle dernier, parle de ce qu'est le sionisme. Voilà, c'est quoi cette idéologie qui s'est imposée dans cette région du monde, voilà, et puis l'arrivée des juifs, de juifs persécutés, hein, d'ailleurs, voilà, au début du XXe siècle, et puis après la période effectivement du génocide qui a amené encore plus de juifs à immigrer en Palestine. Mais moi, j'avais besoin, parce que comme je le disais tout à l'heure, d'essayer de raconter cette histoire de la Palestine pour qu'on pose les bases et qu'on comprenne ce que si on en est aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même quelque chose à comprendre pour comprendre le présent, on est obligé de retourner dans le passé. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai défendu lorsque j'ai écrit ma narration du film. Et effectivement, l'idée, c'était d'entendre des Palestiniens, effectivement, si je pouvais des Israéliens lorsque j'allais là-bas, mais aussi d'entendre des personnalités, entre guillemets, qui font consensus sur leur connaissance de la géopolitique de cet endroit du monde, même si ça ne fait pas plaisir à l'occupant israélien. Mais voilà, donc j'ai pris des rendez-vous avec des historiens, style Elias Sambar, donc délégué pour la Palestine auprès de l'UNESCO, style Alain Grèche et Dominique Vidal du monde diplomatique, qui sont quand même des personnalités éminentes et qui connaissent très très bien le Moyen-Orient et notamment Israël-Palestine. Alors maintenant, moi j'ai pris l'habitude de dire Palestine-Israël, hein, territoire historique et voilà. Et puis voilà, donc j'ai pris des rendez-vous, des juristes. Alors j'ai eu la chance d'interviewer Richard Falk, qui est un, alors je connais par cœur son titre, mais il a travaillé pour l'ONU, pour la Commission des droits de l'homme notamment. C'est un vieux monsieur, mais qui était de passage à Genève, et par connaissance, j'ai pu l'interviewer. C'était une chance pour moi. Jean Ziegler, un personnage éminemment connu. Donc, tout le monde connaît ses positions sur la situation en Palestine-Israël. Et là, j'ai une petite anecdote. En fait, je voulais l'interviewer à la Maison des Nations, hein, ce qui est l'ONU bis de la partie européenne à Genève. Il fait des demandes d'autorisation et voyant que les autorisations n'arrivaient pas, j'ai rappelé Jean Ziegler, il était d'accord pour l'interview. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolé. Il me dit, écoutez, on va faire ça chez moi. Alors donc, on débarque chez lui avec ingénieur du son et cadreur. Là, on était trois ce jour-là. J'avais préparé mes questions. Et puis, c'est un monsieur qui est toujours entre deux réunions, une à New York, une à Genève. Il est pris de partout. Enfin, il a un emploi du temps incroyable. Il a un charisme incroyable aussi. Et il me dit, écoutez, on va faire... combien de temps? Je lui dis, il faudrait me laisser au moins une heure. Il me dit, maximum une heure. En fait, on est resté quatre heures et on a fini par boire des bières. Parce que voilà, c'est un sujet, c'est un monsieur passionnant, et le sujet le passionne et il est passionnant à écouter. Et un de mes regrets dans le film, c'est de ne pas l'avoir suffisamment utilisé, parce que c'est le genre de personne où on lui pose une question. Moi, j'avais des questions très précises sur le droit international, notamment sur la notion de crime de guerre, crime contre l'humanité. On lui pose une question et la réponse, elle fait 20 minutes, quoi. Donc, après, vous imaginez bien qu'au montage, on est un peu gêné, comme moi, j'avais écrit une narration. Donc, ça, c'est un de mes petits regrets de ne pas l'avoir assez utilisé, entre guillemets, dans mes interviews. Mais ceci dit, j'ai eu Richard Falk, j'ai eu Rania Madi, qui est une juriste internationale qui travaille pour l'ONU et qui m'a rappelé ce qu'était la définition de crime de guerre et crime contre l'humanité. Donc là, je peux dire à votre micro que c'est clair qu'Israël commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité depuis très longtemps dans les territoires occupés et à Gaza, et pire Gaza. Encore. Donc là, ça m'a amené à une réflexion et de me dire, la question c'est pas de savoir s'ils commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, mais c'est quand ils vont être condamnés, quoi. Donc là, ça sous-entend la CPI, par exemple. Donc ça m'amène à dire aussi que j'ai interviewé Gilles Devers, qui est un avocat lyonnais, mais qui fait partie d'un collectif d'avocats qui a été mandaté par la Palestine pour défendre les Palestiniens qui ont porté des plaintes auprès de la CPI. On ne sait pas si ça va rentrer en instruction ou pas, mais en tout cas, ça fait son chemin. Ça va être sûrement très très long, parce que la CPI n'est pas reconnue ni par Israël ni par les États-Unis, donc c'est d'autant plus compliqué. Mais voilà, donc c'est des gens vraiment passionnants qui m'ont éclairé sur le droit international, parce que si mon film le démarre pendant un quart d'heure, 20 minutes sur l'histoire de la Palestine, sur l'historique, ce qu'est le sionisme, Herzl, la déclaration Balfour, tout ça, je pense que en tant que citoyen français, on a besoin de comprendre tout ça. Après, j'ai développé des grands thèmes qui sont le droit international, ce que sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, la notion de résistance, qui est un droit fondamental reconnu par l'ONU, on ne le sait pas, mais voilà, c'était important de le rappeler. Et ce n'est pas moi qui le dis, j'ai fait parler des gens qui connaissent le sujet. Et voilà.
Donc, l'historique, la colonisation, effectivement, la résistance, alors... armée, citoyenne, non violente. En fait, tu as interviewé un certain nombre de personnes qui... Parce qu'effectivement, aujourd'hui, en Palestine, en Cisjordanie, mais aussi sur Gaza, puisque moi, je considère que les marches qu'il y a eu là, qui ont été...
Et qui continuent tous les vendredis.
Cruellement réprimées par Israël, et qui continuent, effectivement, font partie de la résistance non violente. C'est une marche collectif familial, c'est pas du tout une marche guidée par le Hamas, enfin le Hamas essaie s'en servir d'ailleurs, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment une décision de citoyens palestiniens, d'une population jeune, moins jeune, familiale, qui a décidé effectivement de protester de manière non violente tous les vendredis, hein, c'est la marche du retour, et qui a effectivement été, et il est toujours, hein, de toute façon, très réprimé brutalement, puisqu'il y a eu des morts et des blessés et des mutilés à vie.
C'est ça.
Hein, par des tirs d'Israël. Donc, moi, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Donc, on reviendra sur la genèse du film, sur ta construction, sur le financement, puisque pour avoir aussi cette équipe et ensuite, sans doute pour le montage, etc., tu as dû avoir, tu as dû disposer de moyens. Mmh. Voilà. Et puis, voilà, on fait une pause musicale.
Thank you.
Alors Roland, tu nous donnes une petite explication sur cette pause musicale que tu as choisie.
Alors ce que vous avez entendu, c'est un morceau d'un joueur de oud, auteur-compositeur qui s'appelle Adel Salamé, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois et j'ai la chance qu'il habite Lyon. Et lorsque j'ai écrit ma narration, j'ai tout de suite pensé à lui et je lui ai demandé tout simplement qu'il me laisse les droits sur quelques morceaux de son disque. Et avec plaisir, il m'a dit « avec plaisir, si c'est pour la Palestine, je le fais ». Alors, ce n'est pas la seule musique qu'il y aura dans le film, parce qu'on tenait vraiment avec le monteur à ce qui est vraiment de la musique, parce que ça renforce souvent les propos ou les images. Et il y a donc deux ou trois morceaux d'Adel Salamé, avec du oud notamment, mais il y a aussi un morceau d'Éric Frasiak, un chanteur français qui m'a servi aussi de générique. Mon fils m'a même enregistré un morceau à la guitare, parce que j'avais besoin de morceaux classiques aussi pour la douceur de certaines images, contrairement à la violence de ce qui se passe là-bas. Et voilà, donc il y a plusieurs musiques comme ça, mais Adel Salamé, c'est vraiment les musiques principales du film, effectivement, et c'est un joueur de oud assez fantastique.
Il a participé à peut-être comme ça, certains Lyonnais se rappelleront de lui, à une des présentations du festival du film palestinien, là, au Comédia.
Absolument, ouais, l'année dernière, ou il y a deux ans, il a joué à l'introduction de... Le jour de l'ouverture effectivement du festival au cinéma Le Comédia, oui, tout à fait.
Oui, avant la pause musicale, Roland, tu évoquais les rendez-vous que tu avais pris pour monter des séquences de ton film, donc, ce qui veut dire que tu as eu un gros travail, je pense, de préparation, donc de prise de contact, et que dans ta tête, tu savais déjà quel était le propos et comment il l'alimentait. Donc je voudrais que tu reviennes un petit peu sur tout ce travail de formation du film dans ta tête.
Alors oui, ça effectivement, les prises de contact, les prises de rendez-vous, alors déjà il a fallu que j'en prenne avant de partir avec ma petite caméra en Palestine, donc ça m'a été facilité par des relations, notamment j'ai interviewé, c'est un petit morceau du film, l'ancienne mairesse de Bethléem, Vera Baboun, qui est un personnage très intéressant. Une femme, mère de Bethléem. Alors Bethléem, c'est vrai qu'il y a une forte communauté chrétienne et je voulais l'entendre sur la notion de résistance justement et c'était intéressant. Donc ça, bon, j'ai eu le rendez-vous sans trop de problèmes. Après, c'est vrai que vous imaginez que pour avoir des rendez-vous avec Jean Ziegler, même si c'est un personnage absolument formidable et ouvert, mais il faut jongler avec son emploi du temps. Elias Sambar à l'UNESCO, c'est pareil, il faut s'adapter à son emploi du temps. En plus, il est tombé malade, donc il m'a annulé le rendez-vous. Alors, vous imaginez, mais bon, je ne sais pas si c'est important de le dire, mais en tout cas, quand on constitue une équipe et qu'on a prévu des rendez-vous, par exemple avec l'ambassadeur de la mission palestinienne à Paris, vous essayez de faire le lendemain Elias Sambar pour limiter un peu les frais, parce que faire un film, c'est aussi des frais de déplacement, indépendamment du matériel et des gens qui travaillent sur le film. Donc voilà, ça a été pas compliqué, mais en tout cas, des fois un tout petit peu laborieux. Mais bon, ça se gère. C'est aussi pour ça que finalement, j'ai mis un an et demi pour faire le film. Hein. Entre l'écriture du début 2017, les interviews, mon voyage en Palestine et le montage qui a été très long, qui a duré plusieurs mois. Et on a fini le montage en septembre de cette année. Donc oui, si je mets ça tout bout à bout, c'est un an et demi. Pas de travail à plein temps, mais en tout cas d'un an et demi sur la durée. Quoi.
Et... Les gens que tu voulais interviewer, les personnes que tu voulais, dans l'ensemble, tu as pu les interviewer toutes ou tu as essuyé des refus ou des impossibilités aussi, hein. Mais est-ce que ça, en fait, le panel de personnes que tu as pu interroger correspondait à ce que tu avais en tête?
Ouais, absolument, ouais. Non, j'ai un ou deux petits regrets, mais globalement, à 95%, les gens que j'avais ciblés, que je voulais entendre sur les sujets que je souhaitais développer dans le film, les thèmes qui sont dans la narration du film, non, me correspondaient tout à fait, et pour ça... Et en plus, quand je leur expliquais pourquoi, je suis en train de faire un film, alors moi je ne suis pas du tout connu, hein, je suis un citoyen perdu dans les monts du Lyonnais, donc finalement j'ai eu un assez bon accueil, parce que je pense que c'est un sujet qui passionne, comme moi, il m'a passionné depuis de très nombreuses années, et que les gens, vraiment, les gens ou les personnalités, entre guillemets, que j'ai interviewées, ont vraiment envie de développer cette histoire de Palestine-Israël, parce qu'il se dit tellement de choses complètement stupides, idiotes et des contre-vérités que voilà, les gens que j'ai interviewés avaient à cœur de démontrer que leur travail d'historien ou de juriste ou d'écrivain avait besoin d'une audience au travers d'un film, quoi, voilà.
Alors c'est vrai que le peuple palestinien, c'est quand même un peuple qui subit une telle injustice, on va dire, depuis des décennies, hein, voilà. Alors on pourrait dire que de par le monde, d'autres peuples subissent aussi des injustices. Et alors, il me semble quand même que les Palestiniens bénéficient d'une telle, d'abord d'une grande solidarité internationale, associative. C'est pas tant par les gouvernements qui ont plutôt des positions. Alors, c'est pas forcément des positions contre, hein, mais c'est des positions plutôt pour Israël. Ou du moins ils ne font rien qui puisse vraiment aider les Palestiniens. Mais c'est vrai que cette population, qu'elle soit sur place ou qu'elle soit exilée, la diaspora, etc., a une grande solidarité internationale, mais aussi parce que les Palestiniens ont su eux-mêmes, je pense, faire appel à l'intelligence des circuits associatifs, ont osé aussi demander de l'aide, mais demander de l'aide de manière intelligente. C'est une population qui est éduquée. Je pense que la première résistance palestinienne, c'est l'éducation des enfants. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un tel réseau associatif, individuel, de solidarité envers cette population. Et je pense que c'est pour ça aussi que des personnalités intellectuelles reconnues n'hésitent pas, quoi. C'est mon sentiment.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et pour rebondir sur ce que tu dis, là, c'est vrai que moi, je l'ai constaté au travers de mes deux voyages et au travers de tous les échanges que j'ai régulièrement avec des amis palestiniens, des citoyens ou dans l'associatif, peu importe. L'éducation est primordiale. Mais alors, à un tel point qu'on ne s'imagine pas en France, le peuple palestinien a un niveau d'éducation, je crois que c'est l'un des premiers du monde arabe. Et c'est évident quand on va là-bas, parce que ne serait-ce que déjà par la pratique de l'anglais. Parce que des fois, on rencontre des Palestiniens, ils ne sont pas tous francophones, donc on échange en anglais et on voit vite que les ados ont des facilités dans la langue que nous, Français, on n'a pas, hein, il faut bien le reconnaître. Et ils ont une culture et surtout aussi ce qui leur est. Cette culture, elle transpire au travers de leur histoire, parce que sans cesse, on leur raconte leur histoire. Enfin, je veux dire, c'est transmis de génération en génération. Ce sont les grands-parents, hein, ou les très vieux grands-parents qui ont été expulsés en 48, lors de la création de l'État d'Israël. Mais les parents, donc, ont raconté ça aux enfants, et les enfants racontent ça aux petits-enfants. C'est cette histoire de l'expulsion, cette histoire de territoires volés, de villages massacrés, hein, plus de 600 villages en 48. C'est sans cesse raconté et ça reste dans leur culture et au travers de l'éducation globale, quoi. C'est un peuple très très éduqué, c'est vrai, ça je peux le confirmer et je l'ai constaté sur le terrain.
Alors on va revenir au financement de ce film, hein, parce que tu as dit que tu avais mis une grosse année et demie, hein, c'est ça, avec donc des personnes qui ont été rémunérées pour le faire, hein. Tu avais une équipe de professionnels, ingénieurs du son, tu as dit cadreurs, peut-être aussi pour le montage, tu as fait appel à un ou une professionnelle. Et donc, comment as-tu pu financer la conception de ce film?
Alors, j'ai été aidé au départ par un ami qui s'appelle Jérémy Barré, qui est prof de cinéma au lycée Bel Air à Tarare, et qui m'a d'abord prêté du matériel, et qui m'a dit, écoute, ça me plaît ton projet, je serai ton chef opérateur. Alors il n'a pas pu toujours être là, puisqu'il est en prof de cinéma, il m'a délégué souvent un copain à lui, qui a une formation de cadreur. Donc pour mes interviews en France, à Genève, etc., j'étais souvent accompagné soit de Jérémy, soit d'Olivier, sur Paris, on débrouillait avec des intermittents parisiens. En tout cas, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils soient au moins dédommagés, que je puisse les rémunérer. Donc très vite, s'est posé la question du financement. Pour démarrer, j'ai démarré avec mes propres deniers parce que j'étais prêt à le faire, parce que ce projet me tenait à cœur. Je l'ai un petit peu dans les tripes, même beaucoup. Donc j'ai mis mon propre argent et puis très vite, je me suis dit, effectivement, là, il faut remonter à Paris 2, 3, 4, 5 fois, il faut aller à Genève. Voilà. Et puis après, oulala, le montage, j'ai fait faire des devis, c'est la plus grosse part du financement, du besoin pour le film. Donc, je me suis dit, tiens, bon, on va faire un financement participatif. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en termes de financement participatif. Et j'ai vu qu'en matière de cinéma, parce que aussi, étant militant à TAC, il ne fallait pas que derrière, il y ait des banques un petit peu louches, rien, etc. Donc, bref, je me suis adressé à KissKissBankBank. Et effectivement, il y a eu un financement participatif sur cette plateforme qui a vraiment très, très bien marché parce que on avait un objectif modeste de 12 000 euros et on a levé plus de 13 000 euros en l'espace de quelques mois. Et je dois dire qu'il y a eu un bel élan de solidarité autour de ce projet que j'ai tenté d'expliquer du mieux que je pouvais. J'ai pris une stagiaire qui m'a fait un blog, une page Facebook pour expliquer la genèse, le comment, le pourquoi, en mettant des photos, etc. Et on a levé des fonds finalement assez facilement, si je puis dire. Et il y a eu aussi des associations de solidarité qui se sont manifestées pour me dire, oui, nous, on veut participer aussi. Alors là, il faut que je les cite parce que sans elles, ça aurait peut-être pas été possible. Mais j'ai eu un soutien national de l'UJFP, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. L'Union juive française pour la paix, qui est très impliquée pour le droit des Palestiniens Donc, ils m'ont soutenu. Et puis, le réseau des AFPS, hein, Association France-Palestine Solidarité, alors à Lyon, mais dans d'autres régions aussi. Et puis, le Festival ERAP a aussi été partenaire de mon film. Couleur Palestine, qui est une asso à Saint-Genis-Laval, qui a aussi été partenaire de mon film. Enfin, voilà, c'était... plus j'avançais dans le financement, et plus je voyais d'abord que j'allais y arriver. Et puis, je voyais qu'il y a une solidarité qui se développait. Et ça, ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Ça vous motive encore plus. Et là, vous vous dites, faut vraiment aller au bout, parce qu'il y a une grosse attente derrière, quoi. Et puis, il y a eu environ, je crois, 230 ou 240 coopérateurs individuels, quoi. Donc voilà, le financement s'est construit comme ça.
Et pour un budget total de... Pour un budget total de combien ?
Alors en fait, j'ai une asso aussi qui m'a donné pas mal d'argent, une asso parisienne que j'ai pu contacter par le biais de Christian Essel. Je pourrais dire un petit mot de Christian Essel tout à l'heure. Mais bon, on va dire que le film, c'est un budget de l'ordre de 25 000 euros. Et qu'au global, j'ai bien dû lever autour de 20 000 euros, quoi. Donc bon, voilà, c'est tout à fait correct pour... on va dire que dans le monde du cinéma, c'est un très très petit budget, hein, pour un... Je veux dire, ça aurait pu être 10 fois ça, hein. Mais bon, est-ce que ça aurait été 10 fois mieux ? Je suis pas sûr non plus, mais en tout cas, c'est un petit budget, mais qui se gère, quoi. Voilà.
Avant de parler de la distribution, je ferais bien une deuxième petite pause musicale.
Pas de problème.
est revenu. Donc, tu vas nous donner, tu vas nous expliquer aussi pourquoi le choix de ce deuxième morceau qu'on a laissé, je ne sais pas si vous l'entendez, en sourdine.
Bah, en fait, parce que j'aime beaucoup ce que fait Adèle Salamé, et puis on voulait, au travers du montage, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, moi en tout cas, je voulais absolument que la musique soit présente dans le film pour faire passer les images, parce qu'il y a des fois des images assez dures, hein, d'illustrations. Puis des fois, ça va bien avec de la musique douce, finalement. Parce qu'il aurait pu aussi choisir des musiques très rock'n'roll, violentes, etc. Mais on a fait ce choix avec le monteur qui s'appelle Rémi Boria, hein, qui habite Fézin, qui est un monteur professionnel. Et voilà, donc Adèle Salamé, oui, il est très important pour le film.
C'est vrai que cette musique de Oud, enfin, je trouve que ça va bien avec la lumière de la Palestine.
Et oui, puis bah, c'est oriental, donc oui. Forcément que ça va naturellement bien, je suis d'accord.
Avec la lumière des paysages, ouais. En dehors même de Jérusalem, mais je veux dire, il y a une lumière particulière, et c'est très beau. Hein, c'est, la Palestine, c'est beau aussi, quoi, je veux dire.
Et c'est on comprend un très beau pays qui est mutilé par des colonies, c'est insupportable à voir. Et moi, j'ai même vu la différence entre 2014 et 2017. Des colonies qui avaient grossi et que j'étais avec un copain palestinien et qui me dit tiens celle-là il en aura encore construit, tiens c'est terrible quoi, ça c'est des grosses balafres, le mur qui cerne toutes ces colonies et qui empêche les Palestiniens de se déplacer, enfin voilà, tout ça sera raconté dans le film, mais ça vous marque à vie. Et voilà, nous on vit dans notre petite vie française, on voit ça de loin, mais franchement, vivre ça au quotidien, ça doit être absolument terrible, les difficultés de se déplacer, les routes pour les colons et les routes pour les Palestiniens, enfin, l'apartheid au quotidien, les queues au checkpoint pour pouvoir traverser et aller travailler, les multiples contrôles, les incursions de l'armée israélienne pour venir arrêter le gamin qui achetait des cailloux sur les voitures de l'armée israélienne qui venait faire des contrôles, enfin voilà, c'est le quotidien des Palestiniens.
Les restrictions, les interdictions.
Les restrictions en tout genre. Et encore, moi, si j'ai des images de Gaza, c'est parce que j'ai des copains vidéastes de Gaza qui me les ont fait parvenir. Mais parce que je n'ai malheureusement pas pu aller à Gaza. Mais Gaza, c'est l'enfermement. Hein. C'est complètement un peuple enfermé.
Mais il y a un rapport officiel qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. 2020, Gaza est censé ne plus être vivable.
Oui, puisque l'eau n'est plus potable, donc voilà. ça n'a pas l'air de bien gêner nos pays occidentaux. Enfin bon, voilà, ça c'est aussi dit dans le film, la puissance d'Israël, les soutiens d'Israël, d'Israël, tout du moins de la politique israélienne, qui est absolument scandaleuse à l'égard du peuple palestinien dans les territoires occupés et à Gaza, où elle complètement enfermée cette population de 2 millions de personnes qui manifestent pacifiquement tous les vendredis dans le cadre de la marche du retour, presque il faudrait qu'ils s'excusent de manifester pacifiquement pour simplement demander qu'on les autorise à quitter Gaza pour se déplacer normalement, quoi, en tant qu'être humain normal. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une vie tout simplement normale. Voilà, donc c'est trop facile et trop simple et réducteur de dire que voilà, ils jettent des cailloux, alors c'est des graines de terroristes, mais ça c'est insupportable à entendre. Donc tout ça, tout est développé dans le film.
Alors ton film, donc on a parlé de son équipe, l'équipe que tu avais constituée, des personnes que tu avais interviewées. Et du financement, la production, tu as créé une société de production.
Oui, alors c'est un bien grand mot parce qu'elle est associative, mais effectivement je me suis très vite aperçu que d'abord pour constituer une équipe et puis pouvoir les rémunérer même modestement, il fallait que j'ai quand même une petite surface administrative, une existence entre guillemets. Donc j'ai créé une association effectivement de production de films qui s'appelle Hérisson Rebelle Productions. Donc je suis le président, on est trois hein, en fait, tout simplement. Mais il me fallait une existence administrative, donc elle a un numéro d'enregistrement. Et après, ça m'a permis aussi effectivement de contacter des techniciens. Et je voudrais le citer parce qu'il a été un fidèle parmi les fidèles tout au long de ce film, même s'il n'est pas venu avec moi en Palestine, mais à chaque interview pratiquement il était là. C'est Samuel Lévy Micolini, c'est un intermittent du spectacle, c'est un ingénieur du son qui a fait un travail formidable sur le film. comme tous les autres bien sûr, mais je le cite lui en particulier parce que pour le son c'était très important que j'ai un très bon son au travers des interviews. Et puis voilà, alors effectivement, après avoir créé cet asso, je me suis dit, tiens, comme mon fils est intermittent du spectacle, il m'a un petit peu aiguillé, je me suis dit, vers des sociétés de production, est-ce que je vais trouver un producteur qui va m'aider à produire ce film? Donc j'en ai contacté trois, mais j'attends toujours qu'ils me rappellent. Donc, ou
qui répondent, une réponse
qui répondent à mes mails. Non, j'ai pas eu de réponse. Mais en fait, j'ai vite compris que c'est un sujet tellement clivant, tellement... Si vous voulez, on marche un peu sur des œufs quand on veut parler de la Palestine, parce que derrière, vous connaissez le raccourci qu'on vous fait, hein, donc vous avez une position antisioniste, donc vous êtes un antisémite, mais ça c'est pareil, mais c'est absolument insupportable à entendre. Mais de quel droit on dit ça? C'est pour ça que c'était important aussi pour moi que d'avoir le soutien de l'Union juive française pour la paix, parce que eux, ils combattent ça tous les jours, quoi. Et au nom de quoi Israël aura le droit de dire ça? Au nom de quoi le CRIF aura le droit de dire que les juifs qui sont pas d'accord avec la politique israélienne, ce sont pas des bons juifs? Mais c'est insupportable à entendre. Donc voilà, donc tout ça. Pour dire qu'effectivement, trouver un producteur, j'ai vite compris que ça n'allait pas être possible. Donc, d'où le financement participatif. Donc, voilà, qui a bien fonctionné, on l'a dit tout à l'heure. Et puis après, effectivement, une fois que vous avez fait le film, que je l'ai monté, même si ça a duré longtemps, la question se pose de la distribution.
Ah oui, parce qu'il faut qu'il soit vu.
Voilà. Alors, c'est soit je faisais un film et je faisais des DVD, c'est facile à faire. Mais il restait dans son petit cercle de militants ou de pseudo-militants. Mais franchement, et je le dis, mais avec plein d'humilité, ce n'était pas mon objectif. Tout de suite au début, j'ai voulu faire un film pour des non-militants, pour qui s'adresse au plus grand nombre. Parce que cette histoire de Palestine-Israël, il faut absolument que des citoyens, même les non-militants, s'en saisissent. Il faut absolument que cesse cette injustice qui dure depuis 70 ans. Donc toutes mes motivations ont été de me dire il faut que tu trouves un distributeur. Et j'en ai trouvé un, qui a été courageux. Alors je n'ai pas totalement signé, il y a des détails, mais,
c'est en cours.
Mais ça va se faire.
C'est en bonne voie.
Oui, ça va se faire, et il s'appelle, je peux le nommer, Destiny Film, qui est un distributeur parisien qui est pas courageux, qui est simplement honnête, on va dire, et qui a eu un teaser long de mon film qui a été emballé, qui m'a dit écoutez, si votre film est de la qualité des 8 minutes que j'ai vues, je suis preneur. Donc je l'ai rencontré à Paris et il est preneur. Donc on va signer là en janvier pour une sortie nationale de Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine, à l'automne 2019.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est plutôt bien, quoi.
Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Rappelle-nous le nom de ce distributeur.
Destiny Film. Il distribue des fictions, mais aussi pas mal de documentaires, des documentaires environnementaux. Par exemple, c'est lui qui a distribué il y a quelques mois Les Sentinelles. Les Sentinelles, c'est un documentaire qui dénonçait les lanceurs d'alerte sur l'amiante et sur les pesticides. Très, très, très bon documentaire. Donc, c'est quand même un distributeur qui prend un certain nombre de risques, des risques financiers, hein, puisque lui, il engage aussi de l'argent pour la distribution. Donc, on s'est tout de suite entendu, quoi. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc, une distribution officielle avec lancement officiel national, donc à l'automne 2019. Mais entre-temps, ce film va pouvoir vivre. Tu as déjà fait des avant-premières.
Oui, alors là, comme les droits vont être... cédé à Destiny Film probablement au 1er février. C'est vrai que là, j'ai encore les droits sur le film et je me suis permis, parce que j'ai eu de nombreuses demandes par des associations qui ont soutenu le film, de faire quelques avant-premières. Donc, j'en ai fait une importante à Tarare qui a très bien marché puisqu'on a refusé une cinquantaine de personnes. La salle était comble. Là, c'était fin septembre. J'en ai fait une à Brive la semaine dernière et une à Marseille cette semaine. Et puis, il y en aura quatre en région Rhône-Alpes, là, dont trois sur Lyon, enfin la région lyonnaise, là au mois de janvier, donc je pourrais vous donner les dates.
Bah, si tu les as, si tu as les horaires, les lieux, je pense que tu peux le dire, il est 57, tu as 3 minutes.
Donc il y aura une avant-première au Ciné Caluire le vendredi 11 janvier à 20h30, il y en aura une à Annemasse au Ciné Actuel le vendredi 18 janvier à 20h, elle est portée par Palestiniens en chemin. Au ciné Caluire, la date du 11, il y aura sûrement des gens du collectif 69 Palestine, AFPS, UJFP. Il y en aura une ensuite le mercredi 23 janvier au cinéma Opéra, qui n'est pas très loin d'ici, à 20h30. Où là, normalement, devrait intervenir Gilles Devers, l'avocat lyonnais qui est mandaté par la Palestine. Et oui, ça va être intéressant de l'entendre et de me faire un point sur le droit international et la CPI. Et il y en aura une enfin au cinéma Mourguet à Sainte-Foy-lès-Lyon le jeudi 31 janvier à 20h. Voilà, c'est les dates lyonnaises pour le mois de janvier. Mais effectivement, après, il y aura sûrement des dates, on va dire, plus au printemps-été, dans des villes, des grandes villes de France. Quoi. Probablement une série d'avant-premières, mais là, je ne peux pas m'avancer sur le travail que va faire Destiny Film en termes de communication, mais c'est assez probable, oui.
Oh, mais je pense qu'on diffusera les informations quand on en aura.
Oui, je pense qu'on peut imaginer qu'il y en aura une au Comédia.
J'espère, mais c'est vrai que Comédia a toujours fait un gros effort d'accueillir le lancement la soirée de lancement du festival du film palestinien.
Ça sera encore le cas cette année.
Et c'est vrai que c'est quand même une salle accueillante qui nous permet de toucher quand même un public important.
Et donc de toute façon, on notera au moins ces quatre premières dates sur le site et sur le blog de l'émission, donc on peut réécouter l'émission et on peut mettre quelques informations.
Bien sûr. Puisque l'émission est en direct, mais est enregistrée, donc vous pourrez même la réécouter, parce que c'est passionnant. Donc, comme disait Lydie, sur le blog de l'émission.
Donc, ou sur le site de Radio Canu, ou sur le site d'Atacrone.
Oui, puisque Atacrone fait un lien vers le site de Radio Canu, puisque c'est l'émission d'Attaque, qui se termine aujourd'hui, et on va laisser la place à...
Au Canu Info, et on vous dit à l'année prochaine.
Passez de bonnes fêtes.
Jesus promise.